Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir et merci de nous rejoindre dans Radio Foot International dans cette soirée spéciale Ligue des Champions sur RFI. Vous avez peut-être suivi l'édition spéciale avec Olivier Pron et Alejandro Valente. Eh bien, nous continuons et nous continuons avec l'Ajax, cet Ajax d'Amsterdam qui régale encore cette année et bat avec facilité Lille par 3-0. Ziyech, Neres, Tadic, Onana, ils sont au rendez-vous européen et les Lillois ont été bien trop imprécis sur les occasions qu'ils se sont pourtant procurées. La déception des Lyonnais tenus en échec sur leur pelouse par le Zénith Saint-Pétersbourg 1-1 et un sixième match européen sans victoire à domicile pour l'OL. L'équipe semble avoir toujours les mêmes défauts transposés cette fois en Ligue des Champions. Et puis les champions en titre de la Ligue des Champions, les champions d'Europe, Liverpool battu par Naples. Les Napolitains doivent être en fête là-bas du côté du sud de l'Italie. Victoire 2-0 en fin de match, nous en parlerons. Et puis l'autre duel de choc de la soirée, Dortmund-Barça, s'est achevé lui par un match nul, 0-0. Et nous y viendrons aussi, bien sûr, dans ce studio pour continuer la soirée. Eh bien, le réfé, on l'a gardé, on l'a attaché à son siège. Bonsoir Alejandro Valente.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Merci d'être resté dans Radio Foot International. Nabil Djellit et Patrick Juillard sont là
fidèlement. Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Bonsoir messieurs. Et puis Ralph Samouri, notre stagiaire, est là aussi. Bonsoir Ralph.
Bonsoir Annie, bonsoir tout le monde.
Merci d'être ici avec nous. On va revenir sur tous ces matchs, analyser ce qu'on a regardé et puis imaginer ce qu'on n'a pas pu voir en analysant les résultats. Radio Foot, c'est parti.
L'ouverture du score du côté de l'Ajax, bien sûr, la Johan Cruyff Arena qui explose l'ouverture du score avant la 20e minute de jeu. Mauvais départ pour Lille, déjà mené 1-0 ici à Amsterdam. Le deuxième but de l'Ajax, Edson Alvarez, le Mexicain, magnifiquement servi par David Neres, le Brésilien, auteur d'un récital en ce début de seconde période. L'Ajax mène 2-0 face à Lille. C'est Tagliafico qui est venu reprendre de la tête à la 62e minute ce corner d'Hakim Ziyech pour tripler la mise, 3-0.
Que l'Ajax joue bien et que la Ligue des Champions est dure pour Lille. Les deux équipes ont perdu de bons joueurs au mercato. Mais du côté d'Amsterdam, on a l'impression de ne pas s'en apercevoir. Onana, Onana, pour qui chante le public. Il y avait évidemment le gardien camerounais, auteur de multiples arrêts, nous allons y revenir. Mais il y avait aussi David Neres, Hakim Ziyech et tous les autres qui ont régalé. Hugo Moissonnier, bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir à tout le monde.
Hugo, quelle chance d'être dans ce stade Johan Cruyff avec un super match et une super ambiance.
Oui, l'esprit de Johan Cruyff planait encore une fois sur cette Ajax, sur son club ce soir avec du beau football, de beaux buts, de la technique, du spectacle, de l'allant offensif, même si ça n'a pas toujours été simple pour les joueurs d'Amsterdam dans cette rencontre. Les Lillois ont réalisé une assez bonne première période. Dans les intentions, tout du moins, le problème en Ligue des Champions, comme on dit, c'est que chaque erreur se paye cash et il faut être efficace. Efficace en défense, surtout si on joue en contre-attaque. Il ne faut pas laisser Promesse tout seul dans la surface à la 18e minute. Il faut être efficace en attaque. Alors même si c'est André Onana en face et que c'est assez compliqué de le tromper, le portier camerounais, il aurait été bien inspiré de conclure cette magnifique occasion. Jonathan Ikoné en fin de première période, ça peut-être été le tournant de la rencontre car vraiment après la pause, l'Ajax a assis sa domination, a vraiment installé sa domination sur ce match et a inscrit deux autres buts assez logiquement grâce à Ziyech, grâce à Neres, ces deux artistes.
Oui, ces deux artistes, on va y revenir, Hugo, mais écoutons tout de suite Christophe Galtier, l'entraîneur de cette équipe de Lille. Lui, il faisait ses débuts en Ligue des Champions, même si il avait disputé des matchs européens avec Saint-Etienne, mais c'était alors en Ligue Europa. Écoutons Christophe Galtier, qui résume assez bien la prestation de son équipe et je pense qu'il va dans le droit fil de ce que vous venez d'expliquer.
Le match se résume tout simplement sur l'efficacité dans les deux surfaces. Ils ont eu un maximum d'efficacité, non pas de réussite, mais d'efficacité dans notre surface. Et nous, dans la leur, on n'a pas eu du tout d'efficacité. Ce soir, l'homme du match a été d'après l'UFA, le gardien de l'Ajax. Ça montre quand même que nous sommes créés des situations. Mais à ce niveau-là, ça suffit pas de se créer des situations. Il faut les mettre au fond. Il faut pouvoir sanctionner l'adversaire quand on peut le sanctionner.
Sanctionner l'adversaire, effectivement, ça a manqué. C'était Christophe Galtier au micro de nos confrères d'RMC Sport qui retransmettent ces matchs de Ligue des Champions. Je vais faire un petit tour de table. Un commentaire, Patrick Juillard, sur ce match.
Christophe Galtier a bien dit d'essentiel. C'est-à-dire que, en Ligue des Champions, et on n'a pas 40 occasions. Quand on en a deux ou trois, il faut en mettre au moins une. Et effectivement, en fin de première mi-temps, cette situation où Jonathan Ikoné choisit de faire un plat du pied fort au lieu peut-être d'essayer d'enrouler ou de frapper différemment le ballon, ça coûte cher. Ça coûte cher et beaucoup de mauvais choix dans le dernier geste chez Lille. Plutôt un bon match dans la conduite du jeu et beaucoup de mauvais choix dans le dernier geste et puis une certaine passivité défensive, un manque peut-être de mordant défensif, pas d'arrêt décisif de Mike Maignan. Donc à la fin, comme il l'a dit très bien, les deux surfaces ont failli. Tout le reste était pas mal, à part peut-être Renato Sanchez, mais on y reviendra sans doute après.
Nabil Djellit.
Un match spectaculaire, je trouve déjà qu'on s'est régalé en termes de spectacle, ça allait d'un but à l'autre.
C'est ce qu'on a envie de retenir.
Il y avait une équipe qui était au-dessus, qui était plus forte, ce qui étrangement, effectivement, il y a des situations assez franches du côté de Lille, mais ils n'ont pas été assez tueurs, assez cliniques. En face, c'est vrai qu'il y avait... Il y avait Onana, mais il y a des soirs comme ça aussi. Je veux dire, il y a des soirs où on va expliquer qu'il faut être un plus tueur en Ligue des Champions, mais ça se trouve, dans une ou deux journées, vous allez voir Lille qui aura qu'une occasion ou deux occasions et qui les mettra. C'est une jeune équipe, rappelons-le quand même. Il connaît, c'est un espoir du football français. Osimhen, c'est très jeune. Alors oui, l'insouciance et l'inexpérience du côté de Lille, je veux bien, mais il y en a aussi de l'autre côté, mais on a senti vraiment une machine beaucoup plus huilée autour, effectivement, de quelques joueurs. Franchement, qu'on peut dire de classe mondiale, Neres, Ziyech, c'est vraiment du top.
Ralf Amory.
Alors déjà je trouve que c'était le match le plus beau à regarder. Il y a eu
Pourtant vous avez suivi Barça, on va y venir avec Alejandro.
C'est sûr que par rapport au Dortmund Barça qui paraissait à première vue comme le match de la soirée et qui
n'a pas été terrible.
Voilà. Ouais. Mais franchement c'était un beau match, ça allait d'un but à l'autre, mais ce soir, on a pu voir que c'est l'expérience qui a fait, je pense, la différence, que ce soit au niveau
de l'efficacité,
du réalisme et offensif comme défensif.
Ah oui. Alejandro.
Disons que le match a été un peu conforme à ce qu'on pouvait imaginer, c'est-à-dire un Ajax dominateur qui a su imposer son jeu et un Lille qui aurait quelques chances, qui allait jouer le contre, qui allait disposer de quelques occasions. Et malheureusement, ce qui a manqué, comme le disait Patrick tout à l'heure, c'est l'efficacité dans ces quelques actions où les Lillois auraient pu faire mal et auraient pu faire douter l'équipe de l'Ajax. Voilà, mais c'est prometteur en tout cas en vue du prochain match contre Chelsea, une équipe de Chelsea qui a été perdue aussi et qui sera quand même obligée d'aller chercher quelque chose à Lille.
Hugo, revenons sur cette équipe de l'Ajax parce que effectivement, on sait que au cours de l'été, elle avait perdu au moins deux joueurs très importants, De Jong et De Ligt, et malgré tout, on a l'impression de voir toujours cette aisance, de voir toujours cette entente, de voir aussi toujours cette même efficacité qu'on avait admiré l'année dernière et on se souvient particulièrement du match Ajax-Real Madrid en début de Ligue des Champions.
Oui, avec notamment Ziyech et Neres et Tadic surtout, ouais. face au Real Madrid qui avait régalé. Oui. Tadic, il avait peut-être réalisé l'un des plus beaux matchs pour un joueur sur le plan personnel de l'histoire de la Ligue des Champions. Bah, ils sont toujours là, hein, ces joueurs, tout simplement. Alors certes, on a perdu un défenseur et un milieu de terrain, mais on a gardé les talents offensifs. Et c'est vrai que le milieu de terrain, il a plutôt envoyé quelques signaux positifs ce soir, parce que Martinez, l'Argentin Lisandro Martinez, il fait partie de ceux qui doivent prendre la succession de Jong. Il a plutôt été bon. Alvarez, il a été très bon puisqu'il a marqué. Promesse aussi, voilà, deux milieux de terrain qui marquent quand justement vous avez besoin de se rassurer, de vous rassurer dans ce secteur, ça fonctionne bien. En défense, je serais un petit peu moins dithyrambique parce que justement, on l'a dit, l'Ajax a concédé des occasions, mais là encore un crack, comme on dit, a été conservé. Le portier camerounais Onana. Voilà, l'Ajax s'est affaibli, mais quelques joueurs, comme le dit Nabil, de classe mondiale sont encore là et clairement ils ont fait la différence. Mais c'est vrai que certains nouveaux venus ont également donné apporté quelques gages ce soir.
Il y a deux Argentins qui ont été bluffants, déjà Tagliafico, là.
Un débuteur de la soirée.
Exceptionnel à gauche. Alors je ne sais plus dans quel grand club on en parlait cet été, la Juve ou je ne sais pas.
Il y a beaucoup de clubs qui l'avaient suivi, mais évidemment l'Ajax ne pouvait pas laisser partir tout le monde.
Donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé l'année dernière. On a beaucoup parlé de De Ligt, de Jong, Ziyech, Neres, mais Tagliafico, il n'a pas donné sa part au chien non plus. Et puis aussi, c'est un club qui démontre aussi qu'il a des bons recruteurs et un bon centre de formation. On va pas revenir dessus, mais le jeune Argentin là dont on parle, Lisandro Martinez, c'est 7 millions d'euros du côté du championnat d'Argentine. Il est tout de suite opérationnel. Franchement, on a l'impression qu'il est là depuis je ne sais pas combien de temps.
Et il faut aussi tenir compte du fait que l'Ajax, en ayant disputé deux tours préliminaires, arrive beaucoup plus rodé, mais risque de payer cet effort un peu plus tard.
Oui, mais il l'avait pas payé la saison dernière. Exactement. Alors c'est vrai qu'on peut s'attendre à tout avec eux. En tout cas, ce qu'on peut dire de l'Ajax, je pense qu'ils sont clairement candidats à une qualification en huitième de finale. Après, plus si affinité, ça dépendra éventuellement des adversaires et de plein d'autres paramètres.
Mm-hmm. Patrick ?
Oui, je suis d'accord avec Nabil. C'est-à-dire que l'Ajax, on sent la continuité. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a un ADN, une identité de jeu qui survit au changement de joueurs et qui arrive à maintenir ça. Alors évidemment, c'est un club économiquement faible, donc parfois quand ils sont trop saignés, qu'ils vendent trop de joueurs, ils peuvent avoir des creux, mais globalement,
mais leur politique,
l'identité
c'est pas,
reste
de
la même,
à tout prix.
En partie, mais avec un dosage savant pour ne pas impacter trop l'équipe première, alors que Lille, qui essaye de faire pareil, puisqu'on a vu, quand Lille va chercher Osimhen pour remplacer Pepe, c'est un choix intelligent. C'est un joueur qui a des qualités comparables à celles de Nicolas Pepe.
Lille s'est recruté quand même très bien aussi.
Voilà, mais oui. Ça fait pas longtemps que Lille est sur cette ligne-là. C'est quelque chose d'un peu plus récent, donc il n'y a pas encore.
Tout est nouveau.
J'ai tous les joueurs qui signent.
Propriétaire, évidemment.
Oui, ça fait une saison.
Mais quand un joueur signe à l'Ajax, il sait exactement où il met les pieds. À Lille, c'est encore trop récent pour que ce soit aussi affirmé.
Quoi. Hugo, il y a peut-être une déception quand même du côté de Lille, effectivement. Et en même temps, par rapport à l'équipe qu'on a vue l'année dernière terminer deuxième du championnat, être le dauphin du Paris Saint-Germain, c'est vrai que c'est une équipe qui n'est plus la même, qui a perdu notamment Nicolas Pepe et qui s'est affaiblie.
Oui, alors effectivement, on imagine qu'un Nicolas Pepe, parce que l'Ajax a laissé quelques espaces derrière, donc on peut imaginer qu'un Nicolas Pepe se serait régalé. On aurait bien aimé effectivement voir Thiago Mendes au milieu de terrain, là où Renato Sanchez, alors qu'il a plus joué à droite, hein, c'est un peu bizarre.
Bah, ils ont joué en 4-4-2,
n'a pas vraiment. Oui, mais c'est bizarre parce que c'est pas le schéma normalement le 4-4-2, et puis c'est pas Renato Sanchez, c'est pas exactement un joueur de couloir. Néanmoins, Lille avait quelques solides arguments, des joueurs qui sont encore là, Ikoné et Bamba, d'ailleurs ce sont eux les protagonistes sur la plus belle occasion lilloise en fin de première période. Et puis Osimhen n'a pas été mauvais, je trouve, il a même été très actif sur le front de l'attaque, il s'est procuré une grosse occasion, maintenant il a manqué d'efficacité. Néanmoins, là où je vais aller dans votre sens, Annie, c'est que, et ça relativise aussi la prestation de l'Ajax, j'ai trouvé quand même que cette équipe lilloise, sans être ridicule, m'a paru quand même un petit peu, voilà, un petit peu faible pour le, en tout cas assez loin du niveau Ligue des Champions ce soir. Ça fait illusion une mi-temps, puis après quand même on voit beaucoup beaucoup de limites.
Hugo, avant que nous on poursuive en studio nos commentaires, on va vous libérer parce que je sais que vous allez essayer d'aller prendre le pouls dans les vestiaires du côté des joueurs hein, pour voir leur réaction et leur appréciation du match.
Oui. Tout à fait. On va notamment essayer de rencontrer Audrey Onana. Bah, il a été désigné
aussi,
homme du match. Alors,
évidemment.
Si j'en crois Christophe Galtier, il sera ravi de,
il va parler.
De nous parler. André Onana, qu'on avait quitté sur une déception à l'élimination du Cameroun en huitième de finale de la CAN. Un personnage assez charismatique et ça fait toujours du bien. Et ça fait du bien au football africain de le voir crever l'écran une nouvelle fois lors d'une belle soirée européenne.
Et on essaiera donc de l'écouter sur RFI dans les prochaines heures. Merci beaucoup, Hugo Moissonnier. Et à plus
Merci
tard.
À vous.
Merci. Patrick, juste pour terminer sur Lille.
Non, un petit mot quand même pour saluer la prestation de Boubacary Soumaré qui je trouve a surnagé au milieu de terrain, qui a couvert beaucoup de terrain et qui a aussi compensé les manquements de Renato Sanchez qui pour ma part a été quand même une vraie déception, notamment dans la justesse de passe, parce que bon, on sait qu'il n'a pas encore le physique pour faire 90 minutes pleines, mais dans les gestes simples, même là-dessus, il est en dessous, quoi. Donc c'est inquiétant, hein.
À noter qu'il y avait beaucoup de supporters lillois, beaucoup ce soir à Amsterdam. 2500 personnes avaient fait le voyage dans le port néerlandais pour encourager les dogs, mais quelques 300 d'entre eux ont été arrêtés par la police. Il aura fallu des bus à la police pour emmener tous ces gens au poste. Ils ont troublé l'ordre public, dit officiellement la police. Des faits qui ont été condamnés par le club dans un communiqué. C'était juste avant le début du match. Dans ce même groupe, Alejandro Valente, il y avait un autre match. C'était à Londres et c'était Chelsea-Valence. Chelsea, vainqueur de la Ligue Europa l'année dernière.
Absolument. Et Chelsea qui démarre bien mal sa campagne avec Frank Lampard aux commandes. Dominateur en début de match, ils sont peu à peu lâchés prise et Rodrigo, avec beaucoup de roublardise, a inscrit le but de la victoire de l'équipe de Valence et Chelsea a manqué en plus un penalty en fin de rencontre puisque Ross Barkley, qui venait d'entrer en jeu, a tiré trop haut son penalty. Et donc Chelsea a manqué une belle occasion de revenir au score et devra aller chercher quelque chose du côté des Lille dans deux semaines.
Ralph ?
D'autant que je trouve aussi que la sortie sur blessure de Mason Mount à la 15e minute, elle aura été très préjudiciable.
À l'équipe de Chelsea, hein, ouais. Au Blues. C'est étonnant, par contre, Alejandro Valente, parce que Valence
sort d'une semaine catastrophique, voilà. Puisqu'il y a l'entraîneur Marcelino qui a été viré par le propriétaire du club, malgré l'avis très contraire des joueurs qui n'ont pas cessé de manifester leur opposition à cette décision. Rappelons que Valence, avec Marcelino à sa tête, avait gagné la finale de la Coupe d'Espagne au mois de mai face à Barcelone. Et donc, il a été remplacé par Albert Celades, qui a dû faire la conférence de presse d'avant-match tout seul, puisqu'aucun joueur n'a voulu l'accompagner. Et en plus, Valence avait concédé le week-end dernier une lourde défaite à Barcelone, 5-2. Donc, les conditions étaient loin d'être idéales pour faire une performance. Et ça montre que ce groupe H sera un groupe très ouvert, en dehors peut-être de l'Ajax. La deuxième place risque de se jouer entre trois équipes qui ont des atouts et des points faibles, donc Lille a encore toutes ses chances.
Moi je pense que Lille, je désespère pas que Lille a un coup quand même à jouer. Vous avez raison, parce que c'est pas une poule qui semble très stable. Valence, effectivement, elle réussit une performance assez, assez incroyable en s'imposant du côté de Chelsea, mais on sait que c'est une équipe qui est victime de lutte et de querelles intestines en ce moment. Chelsea, j'ai l'impression que c'est une équipe qui redémarre sur un nouveau cycle, qui est en reconstruction.
Et autour d'un nouvel entraîneur.
Ouais, et puis il y a beaucoup d'intensité du côté de la première ligue. Et je pense que l'objectif, c'est surtout de toujours faire partie des quatre meilleures équipes anglaises. Et Lille, quand même, il y a de la qualité, il y a de l'insouciance. On n'a pas beaucoup parlé, mais je trouve qu'un garçon comme Ikoné, le fait d'avoir été en équipe de France, ça lui a fait un bien fou. Et ce soir, on a quand même vu des fulgurances de joueurs de très haut niveau. Et il y a des arguments. Maintenant, il va falloir voir et peut-être faire des choix, peut-être des choix douloureux, parce que Renato Sanchez, c'est pas parce qu'il a coûté 25 millions d'euros qu'il faut qu'à chaque fois il soit sur le terrain, parce que
Absolument.
Sa saison, il a toujours pas démarré.
Il faut lui laisser le temps de s'adapter aussi.
Oui, mais c'était peut-être. Alors, moi, j'ai des réserves. Alors, autant je trouve que Galtier fait du bon travail et tout, mais là, j'ai des réserves sur ce choix de
de mettre titulaire Renato Sanchez. Alors ok, c'est le joueur sans doute le plus expérimenté en Ligue des Champions de ce jeune effectif, mais ça n'excuse pas quand même sa prestation qui, encore une fois, sur le plan même technique pour des passes simples, hein, du jeu simple, était très insuffisante pour un match de ce niveau-là. Donc il s'est un petit peu tiré une balle dans le pied en l'alignant peut-être.
Voilà pour ce qui est donc de ce groupe H et de ses équipes. On a donc eh bien l'Ajax. Un petit mot, c'est peut-être sur ce joueur qui a fait un aller-retour, le premier buteur de l'Ajax d'Amsterdam, Quincy.
Promesse. C'était rigolo, ouais, je le connais parce qu'il est passé par le Spartak Moscou.
Il devait signer. Il a été formé par l'Ajax et après il a pris l'air.
Oui,
il a
voyagé, bon, il a été gagner sa vie du côté de la Russie. À un moment, en Russie, il y avait une élection qui avait été organisée dans le vestiaire pour qu'il soit pourquoi pas capitaine et tout, mais il avait eu une défiance, une motion de censure de la part de joueurs russes. Pour la petite histoire, il devait aller à Milan. Finalement, il est parti du côté du FC Séville la saison dernière. Et c'est un joueur qui a vraiment des qualités extrêmement, extrêmement intéressantes. C'est un joueur qui percute. Mais je crois que Patrick le connaît un peu mieux que moi.
Non, pas spécialement, mais c'est marrant parce que je trouve qu'ils ont injecté avec ce joueur-là des éléments de jeu plus direct, l'Ajax. C'est pas un joueur de ballon, de redoublement de passe, c'est plutôt un joueur qui percute et qui est tranchant. Et donc, ça leur apporte un registre qu'ils n'avaient pas forcément. Alors, ils sont peut-être affaiblis effectivement à d'autres postes, mais lui, je pense qu'il leur apporte quelque chose de nouveau. Ils ont aussi Huntelaar en réserve de la République qui lui est plus maintenant un buteur statique
et qui est rentré.
Voilà, mais qui peut servir aussi pour conserver le ballon ou faire
conserver un résultat de
la défense sur des corners en fin de match dans le jeu aérien. Mais bref, ils ont une palette plus large qu'on ne le pense et Promesse symbolise un peu ça, je trouve.
En tout cas, belle entrée, disons, de cet Ajax d'Amsterdam, toujours guetté hein, dans la compétition, en tout cas depuis l'année dernière, où il nous avait régalé. On continue, et cette fois-ci, eh bien, on va évoquer l'autre club français qui était aussi en compétition.
Azmoun, attention, avec Djouba, Azmoun !
Eh ouais, mais c'est pas normal !
Le Messi iranien, comme on le surnomme ! Il était blessé, il était presque à deux doigts de quitter la pelouse définitivement. Il revient dans le match et à la 41e minute, il permet avec ce remarquable 1-2 avec Djouba d'ouvrir le score pour le Zénith Saint-Pétersbourg.
Allez Memphis.
Et Memphis Depay face à Lounev. L'occasion de revenir dans le match et celle-là, il ne faut pas la manquer. Memphis Depay, l'international néerlandais face à Lounev.
Et ouais.
Memphis Depay qui permet à Lyon de revenir dans le match. Sur pénalty.
Et oui, 1-1, encore un match sans victoire, encore une prestation décevante des Lyonnais dans leur stade, devant leur public. Ils ont lancé leur saison européenne moins bien que l'an dernier. On s'en souvient tous, le premier match fracassant avec cette victoire renversante à Manchester City. Ce soir donc, le score est resté nul, 1-1. Un seul point pour Lyon, un aussi pour le Zénith. Alors Thomas de Saint-Léger est allé à la rencontre des joueurs lyonnais à la fin du match et on va écouter bien Luca Tuzar, le milieu de terrain qui regrette bien le manque d'efficacité des Lyonnais parce qu'eux aussi ils ont eu des occasions.
Je pense qu'on a été plutôt cohérent tout au long du match et on a fait une bonne première mi-temps. Malheureusement contre le cours du jeu on peut dire on prend ce but. On a été plutôt bon dans l'utilisation du ballon. Après au niveau offensivement on n'a pas su trouver les bons décalages, trouver des bonnes situations devant le but. On n'a pas été saignant dans la zone de finition pour pouvoir marquer.
On va écouter aussi le gardien de but Anthony Lopez qui regrette bien, eh bien l'entame du match qui selon lui a peut-être grévé la prestation de ces Lyonnais.
On a démarré le match un peu difficilement, on a été peut-être un peu timoré, mais voilà, plus les minutes sont passées, plus on était bien dans le match, plus on montrait qu'on était très dangereux et qu'on était costaud. Voilà, maintenant on prend ce but qui nous coupe un peu les pattes en fin de première période. Après on a le caractère pour revenir très rapidement en deuxième mi-temps à partout. Mais malheureusement à l'issue de la rencontre, on sort qu'un point et connaît l'importance des matchs à domicile en phase de groupe de Ligue des Champions, c'est... Si tu prends le maximum de points possible, tu as une belle opportunité pour passer un tiers.
Faut-il être déçu pour les Lyonnais, Nabil ?
Oui, moi je Autant la saison dernière, ils étaient inconstants en championnat et capables de hausser leur niveau de jeu en Ligue des Champions avec des matchs de gala où certaines individualités se sublimaient. Autant
ils
là,
avaient atteint les huitièmes de finale, rappelons-le.
Avec des performances, vous l'avez rappelé, assez intéressantes face à notamment Manchester City ou le Shakhtar Donetsk avec un but de Fekir qui avait emmené Lyon en huitièmes de finale. Autant là, franchement, il y a quand même pas mal de déceptions. Le jeu est stéréotypé, passe quasiment à chaque fois que par Depay qui crée lui-même les situations. Dembélé, on ne l'a pas trop vu, il n'a pas été servi. Je suis désolé, je sais qu'on nous écoute en Afrique, mais moi, pour moi, c'est aujourd'hui de plus en plus une déception, une frustration. Bertrand Traoré, je ne le trouve pas à la hauteur. Il ne crée pas cette situation dangereuse. Il est prévisible dans son jeu. Il rentre à chaque fois avec son pied. Quand il a des centres à faire, il les centre au premier poteau pour ses adversaires. Donc ça, c'est une déception à noter. Au milieu de terrain, je n'ai pas été non plus séduit par l'attelage, parce que autant Jeff Reyna-Adelaïde apporte par des percussions, autant je trouvais que défensivement ça avait manqué de liant, et donc du coup derrière ils se sont retrouvés exposés. On sait que Marcelo est un défenseur qui va pas très vite notamment, et Denayer était un petit peu à côté de la plaque. Moi je trouvais que c'était franchement une prestation mi-figue mi-raisin. Et puis vous êtes dans un groupe qui est homogène, faut pas perdre. Alors c'est bien, ils ont pas perdu, mais si vous pouvez prendre 3 points face à un adversaire comme le Zénith qui est tout sauf un cadre européen, et ben ça vous met dans des bonnes dispositions. Donc moi je m'interroge, et je commence même à interroger un petit peu sur Silvinho, mais on en reparlera une prochaine fois.
Peut-être pas une prochaine fois, on va peut-être y venir, mais pour l'instant, sur l'ensemble du match, Patrick Juillard.
Je partage totalement l'analyse de Nabil, c'est-à-dire que c'est une équipe qui est dans l'à peu près, c'est une équipe qui a un début de défense qui tient.
On avait pourtant le sentiment qu'ils pouvaient faire mieux en Ligue des Champions, parce qu'ils ont un peu ce côté, choisir leur match, et en tout cas, ça pouvait les attirer.
Regardez, l'an dernier, ils ont fait un match exceptionnel contre Manchester City. C'était le premier match de poule, et je pense que, disons-le clairement, City les avait un peu pris de haut, ce qui n'enlève rien à la qualité de la performance. Et ensuite, ils ont fait 5 nuls. Donc
mais au
3
match retour,
à domicile.
Contre City aussi,
et là,
ça
on est dans la continuité. C'est le 6e match nul consécutif au Parc OL en Coupe d'Europe pour l'Olympique Lyonnais, qui a plus gagné depuis 2016 à domicile en Coupe d'Europe. C'est long, hein, quand même, pour une équipe qui est régulièrement qualifiée. Et effectivement, au niveau individuel, c'était un peu brinque-ballon.
Il y a Depay.
Moi, j'ai bien aimé Jeff Reyna-Adelaïde.
Les deux.
Et j'ai bien aimé Depay. Effectivement, le reste, les latéraux, c'est très faible. Léo Dubois, c'est pas bon. Denayer, il revenait, mais c'était pas bien. À tel point que Marcelo avait l'air nettement au-dessus de lui. Pourtant, bon, en général, c'est pas lui le maillon fort de la charnière centrale. Et puis voilà. Donc après, quand vous avez un Dembélé peu servi et que c'est dans l'à peu près, mais on va pas bien loin, c'est pas si mal que ça d'avoir pris un point dans ces conditions.
Oui.
Ralph Samori, sur ce match.
Alors, moi, je trouve que le problème récurrent de Lyon, c'est que comme souvent, ils n'ont joué qu'une seule mi-temps. La seconde. La première mi-temps n'a vraiment pas été terrible, que ce soit dans l'intensité, le pressing, tout. Il n'y a rien qui était bon. Et le match nul, il s'en sort plutôt bien,
oui,
je trouve.
Et d'ailleurs, il y a eu un but. On a bien eu peur qu'il y en ait plusieurs, Alejandro Valente.
De toute façon, on sait que quand on ne défend pas bien, on a peu de chances d'aller loin en Ligue des Champions. C'est quand même une qualité indispensable. Et c'est le gros problème de cette équipe lyonnaise qui n'arrive pas à liquider ses matchs. On sent qu'offensivement, il y a du potentiel, il y a de la qualité. Mais derrière, c'est très inquiétant.
Oui, effectivement, Nabil, voilà, on s'interroge parce que ils avaient un peu fait une préparation qui nous laissait beaucoup d'interrogations. Ensuite, deux matchs de début de championnat avec plein de buts, mais bon, contre des équipes qui n'étaient pas non plus les meilleures du championnat de France. Et puis là, depuis quelque temps, ils ronronnent cette équipe de Lyon, oui, et on se pose des questions autour de Silvinho, autour de ses choix de coaching. Là, il y avait par exemple pas Aouar, qui n'était pas titulaire.
Et Andersen aussi.
Voilà, des joueurs qui ont une expérience, surtout avec l'équipe de Lyon. Et effectivement, Silvinho, on commence à s'interroger.
On s'interroge. Après, évidemment, on va lui laisser du temps, puisque c'est Juninho qui l'a fait venir, qui est le nouveau directeur sportif de Lyon.
Mais
on s'interroge.
C'est pas lui qui fait l'équipe, c'est ça.
C'est vrai, mais par exemple, regardez, on lui a donné le plein pouvoir à Juninho. Il a fait venir Silvinho, ils ont fait venir certains joueurs, mais sur la fin, c'est Jean-Michel Aulas qui a quand même fait venir Jeff Reyna-Adelaïde, alors que Juninho n'était pas non plus totalement convaincu. Donc ça veut dire déjà, vous perdez un petit peu de crédit quand
pouvoir.
Voilà. Après, moi j'en discutais tout à l'heure avec quelqu'un qui a longtemps suivi l'OL, Il m'a dit, par exemple, Juninho, moi, je ne le voyais pas dans un rôle de directeur sportif, parce que c'est toujours quelqu'un qui a été très fixé, très auto-centré. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer. Mmh. Mais en tout cas, ça interroge. Après, sur les principes de jeu de Silvinho, on a déjà parlé ici, mais c'est vrai que le peu d'utilisation des latéraux, ça donne moins d'élan et moins d'enthousiasme. La saison dernière, c'est vrai que vous aviez des garçons comme Ferland Mendy. Alors parfois, effectivement, il pouvait être à côté de la plaque en Ligue 1, mais capable de matchs de très haut niveau. La preuve, le Real Madrid est venu aujourd'hui le recruter. Et ensuite, il y a aussi des garçons qui doivent aussi, alors il y a le coach, mais aussi des garçons qui doivent certainement se remettre en question. Et vous parliez à juste titre d'Oussem Aouar, qui aurait dû être convoqué en équipe de France s'il n'avait pas été blessé, mais Didier Deschamps a pris finalement Guendouzi. Lui, on attend plus de sa part. Fekir est parti, parce que Fekir évoluait derrière l'attaquant. Aujourd'hui, Aouar peut prendre le pouvoir de cette équipe lyonnaise. Ça passe aussi par des joueurs qui doivent franchir un cap.
Et avoir en fait partie.
Il y a un problème maison. Aussi, je trouve, en termes de schéma tactique, c'est que le jeu en 4-3-3, ça oblige à excentrer Memphis Depay, à le faire jouer à gauche. Et malheureusement, je pense que Memphis Depay est meilleur dans l'axe, soit en deuxième revient, attaquant, d'ailleurs. Soit en numéro 10, soit en pointe, mais je pense pas que ce soit viable si on veut jouer avec Depay et Dembélé. Je pense pas que le 4-3-3 soit viable. Pour moi, c'est un vrai problème et je pense qu'il va devoir un peu faire évoluer ses conceptions un peu figées. Et ensuite, il y a le problème des latéraux. Alors, ok, ils ont la consigne de pas monter, mais si c'est pour faire comme Léo Dubois, vaut mieux pas monter, quoi.
Mmh. Alejandro Valente, dans le même groupe, ce groupe G, eh bien, il y a le Benfica de Lisbonne qui jouait et qui recevait Leipzig, le club.
Absolument. Et c'est les Allemands qui ont gagné avec un Timo Werner qui est toujours efficace et une équipe de Benfica qui semble toujours trop tendre quand même pour la
score.
Ligue des Champions. 2-1, effectivement. C'est un très bon résultat pour l'équipe allemande qui va accueillir Lyon dans deux semaines dans cette situation très, très intéressante au classement, puisque une nouvelle victoire la mettrait presque
à l'abri,
presque sur orbite, en tout cas pour une qualification. Et Lyon va être obligé quand même d'aller chercher un résultat là-bas en Allemagne.
Et il faut saluer quand même notre ami et confrère David Lortolari qui ici même nous avait indiqué que RB Leipzig serait le favori de la Bundesliga cette saison. Donc le début de saison lui donne raison.
Mm-hmm. Ouais, mais je crois que c'est un grand connaisseur, non? Vous voulez rajouter un petit mot, Nabil?
Non, mais je trouve que c'est bien. Au moins, ils ont une dualité dans le championnat allemand. Mm-hmm. Leipzig, Dortmund qui sont capables de matcher le Bayern. Ça donne envie parce que nous, en France, on n'est pas prêt de voir une équipe capable de matcher le Paris Saint-Germain.
Sur le long terme, ça va être dur.
On va tout de suite continuer notre tour des pelouses européennes. Et cette fois-ci, on part du côté de Napoli.
Ah.
Napoli are going to open up their Champions League campaign. With a famous victory.
Le deuxième but de Fernando, hein, Llorente, dans un stade, vous le connaissez, ce fameux commentateur. Oui, mais alors le commentateur, il est assez volcanique aussi, ce commentateur de Naples, très très connu, hein, qui harangue la foule, et c'est lui qui met l'ambiance après un commentaire en anglais pour commenter donc la défaite 2-0 des champions d'Europe en titre. Liverpool est allé perdre du côté de Naples, Alejandro Valente, une drôle de manière de remettre en jeu son titre.
Absolument, et finalement c'est assez incroyable parce qu'on s'est dit Sadio Mané, Mohamed Salah, Firmino sont irrésistibles depuis le début de la saison en Premier League. En face, on avait un Koulibaly qui semblait sonner depuis son erreur sur la pelouse de la Juventus. Aujourd'hui, les rôles se sont un peu inversés et Naples a su faire le dos rond en première mi-temps et puis a su porter l'estocade au bon moment. C'est un résultat très intéressant. Naples avait déjà battu Liverpool
la saison dernière.
Exactement, sur le fil, en fin de match aussi.
Mais c'était pas le premier match. Donc là, ça permet à Naples d'attaquer cette campagne la tête haute et d'espérer ne pas connaître la même issue que la saison dernière puisqu'ils avaient fini troisième et avaient dû quitter la Ligue des Champions à l'issue de la phase des poules.
Liverpool.
Ils avaient d'ailleurs gagné à l'italienne, on s'en souvient déjà l'année dernière, oui. Sur le fil comme ça, 1-0. Là, ça a été après la 90e minute que ces buts ont surgi. Mais l'an dernier, Nabil Djellit, on se souvient, Liverpool perdait tous ses matchs à l'extérieur en Ligue des Champions.
Oui, bah, ça les a pas empêchés d'aller, d'aller au bout, même à l'Étoile Rouge de Belgrade.
Non,
mais de manière surprenante, vous avez raison. Face à l'Étoile Rouge Belgrade, qui est.
Oui, bon, il avait un peu.
Bon, qu'ils avaient. Hein oui, voilà.
Hein, ils mais, avaient un peu snobé le match.
Oui, voilà. Mais bon, moi, je crois
ils
pas.
Ils avaient d'autres choses à faire.
Jürgen Klopp est aujourd'hui un manager absolument fantastique. Même les remplaçants sont heureux à Liverpool, ce qui dénote quand même de la qualité de ce coach. Je ne crois pas une seule seconde que Liverpool ne va pas jouer la Ligue des Champions. Ils mettront l'intensité nécessaire pour essayer d'aller le plus loin possible. Mais je reste aussi persuadé que. C'est la première ligue. Je veux dire, c'est la saison dernière.
Et là, ils ont 5 points d'avance, alors il faut peut-être pas.
Donc, je sais pas. L'année dernière, je disais la même chose. Je disais, ils vont jouer la. Je premier à le reconnaître, je disais, ils vont jouer la première ligue à fond et peut-être que la Ligue des Champions. Et au même moment. Mais voilà, en fait, on peut rien prévoir.
Ouais, bah non, avec Klopp, surtout, c'est difficile de prévoir.
Il faut quand même souligner la qualité du jeu du Napoli, puisque déjà, l'an passé, dans cette poule, ils finissent certes 3e,
oui.
Mais.
Non, mais il y avait un peu de revanche dans l'air.
Les plus belles équipes à regarder jouer de la poule.
Ils sont coiffés sur le poteau.
Il y a 3 ans, ils avaient mis en grande difficulté le Real Madrid en 8e de finale, le Real futur vainqueur, rappelons-nous. Mm-hmm. Donc c'est une équipe qui a quand même une qualité de jeu sur la longue durée. Ancelotti, c'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi sur les gros matchs. Donc c'est surtout cette performance que je voudrais souligner. Et puis il faut quand même dire un petit mot. De la grossière erreur de Virgil van Dijk sur le deuxième but inscrit par Llorente.
On a l'impression que Patrick souhaite que Sadio Mané soit ballon d'or. Il met un jardin dans la pierre.
Vous l'avez vu, l'erreur dans la pierre, de van Dijk, Ralph.
Oui, c'est assez rare pour être souligné. En fait, c'est une passe mal appuyée dans l'axe, récupéré par Llorente qui marque.
Va fusiller.
Il a perdu le ballon d'or ce soir.
Le gardien de but de
Liverpool. Tout à l'heure, on disait que c'était peut-être important pour cette journée pour les ballons d'or. Bon, et puis alors, l'autre match, l'autre affiche de la soirée quand même, dont on avait évoqué.
Ah oui.
L'affiche, Alejandro Valente.
Bah oui,
enfin,
Salzbourg.
On y vient.
Salzbourg, quand même.
Eh bien, Salzbourg, effectivement. Dans le même groupe, vous avez raison.
Salzbourg qui revient en Ligue des Champions depuis 25 ans, je crois, et qui gagne 6-2 pour son premier match.
Ça s'appelait pas Red Bull à l'époque.
Oui, bien sûr. Et avec des buteurs assez exotiques, parce qu'il y a quand même ces Norvégiens de 19 ans qui signe un triplé, Erling Braut Haaland.
Oui, alors c'est un personnage énorme. On a regardé tout à l'heure, Ralph, c'est 1m90, 91, 87 kilos. Alors,
qui était arrivé au dernier mercato, je crois.
Et Salzbourg recrute très bien, c'est une équipe qui a des très bons recruteurs.
17 buts en 8 matchs.
Oui, c'est
cette
sud-coréen
saison.
Qui s'appelle Ishan Wong.
C'est déjà son 4e triplé de la saison.
Ouais,
à 19 ans.
À ce joueur norvégien.
Et un sud-coréen, Ishan Wong, qui fait 2 passes décisives, 1 but, quand même. C'est donc
une curiosité.
Une équipe qui nous a fait un peu voyager aujourd'hui face à une équipe de Genk.
Bon, un but de Samata pour
un
Genk.
Temps de encore une Samata fois. Qui finit par avoir un carton rouge, l'ancien joueur du TP Mazembe.
Malheureusement, mais ils sauvent un petit peu l'honneur de cette équipe qu'on attendait quand même un peu meilleure, mais qui a quand même perdu des gros joueurs cet été. Hein.
Donc dans le même groupe, on a Naples et Salzbourg avec Liverpool. 2 victoires et Liverpool.
Oui, voilà.
Et Liverpool et Genk avec 1 défaite. Et puis alors passons au match qui ne peut que passionner notre réfé. Il l'a regardé d'un œil, mais Ralph aussi dans le bureau parce qu'on essaye tous de se partager. Eh bien, nous allons écouter le moment important d'un match qui se déroulait à Dortmund entre le Borussia et le Barça.
Ce pénalty obtenu par Jadon Sancho et Marco Reus qui va retrouver son coéquipier. En sélection, face à lui, Marco Reus, face à Marc-André Ter Stegen, Marco Reus, oh la parole, en deux temps peut-être, oh, incroyable le flegme de Marc-André Ter Stegen.
Et Ter Stegen qui arrête le pénalty qui aurait pu être
retiré.
Eh bien, retiré.
Oui, parce qu'il
n'a pas les pieds sur la ligne.
Hein,
pourtant, on a vu l'arbitre venir lui expliquer les yeux dans les yeux. Bah, hein,
il l'a expliqué, mais il devrait se l'expliquer à lui-même parce que concrètement, moi, je cherche pas.
À dire que
Ter Stegen a failli parce que lui, il est dans son rôle, il a bien joué le coup parce qu'il s'avance allemand quand même sur ce penalty. Et réglementairement, aujourd'hui, le penalty de Marco Reus aurait dû être retiré.
Absolument.
Bah, on n'est pas à la Coupe du Monde féminine, n'est-ce pas, où on les retirait beaucoup. Et donc, Alejandro Valente, ça a été le tournant de ce match finalement où Dortmund aurait peut-être pu prendre l'avantage.
Oui, disons que c'était un match où il y avait beaucoup de choses intéressantes. Déjà, les débuts d'Ansu Fati qui a 16 ans et qui
a fait titulaire.
Ses débuts en Ligue des Champions. Il y a le retour de Lionel Messi qui n'avait pas joué avec Barcelone depuis le mois de mai, qui n'avait pas joué du tout depuis la Copa América.
Et qui n'avait jamais joué avec Antoine Griezmann.
Et qui a donc essayé de retrouver la compétition dans des conditions qui n'étaient pas les plus simples, parce que à Dortmund, c'est jamais facile. Donc Barcelone, je pense qu'ils sont assez satisfaits de ce résultat qui leur permet de finir un match à zéro but encaissé. Déjà, depuis le début de saison, c'était pas le cas. Qui continue à faire quand même pas mal de bêtises et en défense notamment, et on avait déjà vu contre les Celta Vigo, je crois, contre Osasuna, un penalty concédé assez,
mais c'était une équipe B, hein,
assez bêtement. Et là, Semedo, pareil, fait une faute un peu inutile face à Sancho qui provoque encore un penalty. Mais bon, Dortmund a globalement s'est créé les meilleures occasions. Ils auraient pu marquer, mais Barcelone a un très grand gardien.
Qui n'est pas permis... titulaire en sélection allemande. Rappelez-vous, j'aime le rappeler.
C'est à peine croyable.
Ter Stegen. Non, mais Barcelone, en fait, on sent que c'est une équipe qui n'est pas encore totalement prête pour différentes raisons. État de forme disparate. Il y a aussi des joueurs qui sont blessés. Alors, si c'est d'autres équipes, on peut être inquiet, si vous voulez. Mais si c'est Barcelone et on est au mois de septembre, Barcelone, ils ont rendez-vous au mois de février, je veux dire.
On est d'autant moins inquiet qu'en étant dominé, ils prennent un point.
Donc. Après, ils ont dû faire des remplacements assez tôt parce qu'il y a Jordi Alba qui s'est blessé et qui
doit. Il s'est claqué, visiblement.
En plus, son remplaçant qu'ils ont acheté cet été, il n'était pas disponible non plus. Donc, du coup, c'est Sergi Roberto qui doit le remplacer sur le côté
gauche. Le couteau suisse du Barça.
Et puis, il y a ce remplacement assez surprenant de Busquets qui laisse la place à Rakitic. Alors apparemment, il n'y avait pas de problème physique de la part de Busquets, donc simplement
c'est un choix,
Rakitic devait accompagner Messi pour son retour, et il fallait choisir entre Busquets et De Jong, et Valverde a choisi de sortir de Busquets, qui n'avait pas l'air très heureux de ce choix.
Voilà pour ce qui est de ce match. Vous vouliez ajouter quelque chose, Ralph? Vous l'avez regardé plus particulièrement?
Je l'ai regardé et effectivement, Dortmund, qui est mieux rodé que le Barça en ce début de saison, a dominé et s'est créé les meilleures occasions. Et le Barça peut vraiment dire un grand gracias à Ter Stegen.
Mais on en reparlera ici, Annie, mais juste un détail. Pour moi, ça va être important sur la saison du Barça. Je ne sais pas ce qu'en pense Alejandro, mais moi, je ne crois pas qu'on va tirer on va optimiser le talent et le potentiel d'Antoine Griezmann comme ailier gauche. Je sais que c'est un joueur plus intelligent que la moyenne, je sais qu'il est capable de tout, mais pour moi c'est soit deuxième attaquant, soit dans l'axe. Ce soir, j'ai regardé par intermittence parce que je regardais Lille, mais je sais pas ce qu'ils en pensent à Barcelone, mais moi je ne comprends pas qu'on mette 120 ou 130 millions d'euros sur un joueur qu'on ne met pas à son meilleur poste.
Oui, ce sont des choses qu'il va falloir affiner
mais peut-être
assez rapidement. Je pense que c'est Messi, Suarez et Griezmann vont finir par trouver
la bonne formule
pour fonctionner ensemble.
C'est exactement ce qu'a déclaré d'ailleurs Antoine Griezmann en sortant du terrain. Es algo que tememos mejorar. C'est quelque chose qu'on doit améliorer.
Surtout qu'on a l'émergence d'Ansu Fati comme ailier, qui est quand même un ailier gauche. Oui, certes, pas pour être titulaire à tous les matchs, mais il fait quand même son trou, dans l'esprit de Valverde. Donc ça peut peut-être pousser à une réflexion au sujet de Griezmann.
Et il pense à l'envoyer à la Coupe du Monde de moins de 17 ans déjà. Donc je pense qu'il va disparaître assez rapidement des équipes premières, et on verra plus tard si.
Moins de 17 ans avec quel pays?
Avec l'Espagne.
Mais il faut qu'il le naturalise vite parce que.
Bah oui.
Alejandro Valente, dans le même groupe, on avait
l'Inter qui
s'est laissé surprendre.
Un client sérieux et qui a fini par concéder un match nul face au Slavia et qui a un match nul heureux, on peut dire, parce qu'ils ont égalisé dans les arrêts de jeu suite à un coup franc magnifique de Stefano Sensi qui s'écrase sur la barre et Barella donc reprend la balle et marque ce but égalisateur alors qu'ils étaient en grande difficulté.
Et encore un buteur africain pour le Slavia, Peter Olayinka, le Nigérien ancien de Zulte Waregem.
Dans la revue Marca, eh bien on peut noter que Griezmann dit lui aussi gracias à Ter Stegen en disant qu'il avait arrêté un penalty essentiel pour leur prestation du soir. Allez, n'oubliez pas demain le rendez-vous, on continuera sur cette Ligue des Champions. Avec le match qui sera retransmis sur l'antenne de RFI, le PSG et le Real Madrid. Ça sera avec Olivier Pron et Frédéric Suto. Des Parisiens à l'attaque décimée. Alors face à un Real où Zizou, eh bien, il peut dire aussi que sa défense est pas mal décimée. Sont-ils à égalité? Écoutons l'entraîneur de cette équipe du PSG, Thomas Tuchel, au micro de Frédéric Suto. Il donne le point fort de son équipe du PSG en dépit des absences, je vous le rappelle, de Mbappé, de Cavani et de Neymar.
C'est notre caractère d'être actif. Je ne veux pas qu'on joue trop passif. Real Madrid, ils sont très forts, ils sont très courageux, ils sont très expérimentés dans cette Ligue des Champions. Ils ont gagné beaucoup, beaucoup de fois. Et non, je veux qu'on reste actif toujours, qu'on joue agressif, qu'on joue vite. C'est un match difficile entre PSG, entre nous et Real Madrid, mais c'est aussi le premier match dans les groupes. C'est pas le match qui décide tous. Je veux qu'on joue courageux. Et ça, c'est le défi et le but.
Alors Thomas Tuchel avec la petite musique de la Ligue des Champions, il la connaît bien évidemment. On va faire un tour de table, il nous reste pas beaucoup de temps. Que pensez-vous de cette affiche qui s'annonce demain? Allez, Patrick Juillard, jetez-vous.
Elle oppose deux. Vous voulez juste un pronostic?
Oui. Enfin, votre opinion, qu'est-ce qui peut se passer demain soir au Parc des Princes? Vous avez 15 secondes.
Deux équipes convalescentes, deux équipes qui se cherchent et donc un match nul, un partout.
Oula. Nabil Djellit, vous avez 20
c'est un match qui est
alors
difficilement lisible parce que c'est des équipes qui ne sont pas prêtes à différents niveaux. Donc, j'ai pas d'opinion tranchée sur ce match. En revanche, je suis très curieux de voir le Paris Saint-Germain pour son premier vrai test de la saison face au Real.
Ralph Samouri.
Moi, je vois un match assez ouvert avec pas mal d'occasions et pourquoi pas un Keylor Navas revanchard justement pour prouver qu'il avait bien sa place, faire un très grand match et offrir la victoire au Paris Saint-Germain.
Alejandro Valente, vous avez un peu plus de temps du coup.
je suis plutôt inquiet pour le Paris Saint-Germain que je trouve quand même pas très lisible en ce début de saison. Et je pense que le Real Madrid, malgré ses absences, malgré ses difficultés, c'est une équipe qui, dès que la Ligue des Champions arrive, parvient à se sublimer. Donc je vois plutôt une déconvenue pour le Paris Saint-Germain.
Se sublimer, on peut penser qu'il y a Zinedine Zidane qui est revenu. On sait que c'est un peu le magicien de cette Ligue des Champions. Et puis, même si ce sont des joueurs un peu vieux, un peu ancien, on a quand même Karim Benzema, on a Gareth Bale, on a James Rodriguez.
Surtout voir si Eden Hazard va intégrer le trio offensif. Parce que si, franchement, si vous avez Benzema, Hazard et Gareth Bale sur une ligne, j'aimerais pas être défenseur de l'autre côté, même si je m'appelle Thiago Silva.
Mm-hmm. Même si vous avez Keylor Navas en face.
Après, la bonne idée peut-être de Zidane, c'est d'avoir relancé James Rodriguez, qui a été bon contre lors de la dernière sortie du Real. Mm-hmm. Donc c'est intéressant de voir ce que ça va donner.
Disons que le Real, la faiblesse majeure actuelle, c'est en défense et malheureusement il n'y a pas d'attaquant en face pour en profiter, pas beaucoup en tout cas.
Mais c'est aussi un test, on n'en parle pas, mais c'est aussi un test pour Tuchel également, qui est sur le grill pour moi. Après, on en reparlera.
On en parlera.
On suivra les autres matchs demain, et notamment cet Atlético Juventus, qui est quand même aussi très intéressant. Donc, on donnera tous les résultats en cours de match.
Le match sera en direct sur l'antenne RFI, mais il y aura aussi, un œil sur tous les autres matchs de la soirée. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à David Finzel, qui, évidemment, fidèlement, était là. Et puis, Laurent Salerno à la réalisation. Et on vous dit, on sera là aussi demain.